cela que l'amour ne périra jamais. Parce que ça fait partie des attributs de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est omniscient, omnipotent, et il est amour. Alléluia. Et si nous sommes aimés d'un si grand amour, l'amour doit étreindre notre cœur. Un historien disait ceci, avant la venue de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'amour sur la terre. C'est les Romains, je lisais récemment un document sur les premiers chrétiens et le rapport que les païens de l'époque romaine donnaient sur l'Église de l'époque en Jésus-Christ. Ils disaient, mais voyez comme ils s'aiment, quelle que soit l'origine. Quelle que soit l'appartenance sociale, mais un amour exceptionnel étreignait ces premiers croyants. Et lorsque nous lisons l'Écriture, mais nous le retrouvons. Alors ce matin, je voudrais qu'on parle de cette dimension d'amour, bien sûr verticale, mais également qui va à l'horizontale. L'amour, qui doit être communiqué les uns envers les autres. Alléluia. Cet amour qui regorge dans les Écritures. Et par exemple, j'ai pris... Il y a un texte que je voudrais lire avant tout cela. Moi, qui m'a touché, je ne sais pas si il va vous toucher, mais moi, il m'a touché. C'est dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 21. Actes des Apôtres, au chapitre 21 et au verset 5. Regardez ce qu'il est dit, Actes 21 et le verset 5e, l'apôtre Paul est en route pour Jérusalem. Il annonce qu'il va lui arriver des choses assez compliquées, la prison, etc. Et avant d'aller à Jérusalem, il va de ville en ville et il s'arrête quelques jours à Tyr, la ville de Tyr. Et là, il est avec l'église et puis avec les chrétiens de l'église de Tyr. Et il doit reprendre le voyage. Où est-ce que c'est ? Au verset 4, acte 21, 4, et nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de... C'est plutôt l'interprétation de la prophétie de la pensée de Dieu. Mais regardez, verset 5. Lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Moi, ça m'a touché, ça. Il est en train de partir, il sait que c'est dur. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit disent, il ne faut pas que tu y ailles, tu vas souffrir. L'apôtre Paul a dû leur expliquer, comme il avait fait aux gens d'Éphèse, mais que faites-vous en me brisant le cœur ? Moi, je veux accomplir ma course avec joie. Je suis lié par l'Esprit, c'est là que je dois aller. Et il s'associe à lui. Il ne le laisse pas partir comme ça. Et tous ensemble, ils l'accompagnent, un peu comme si on dirait nous, sur le quai de la gare. Et ils se mettent tous à genoux, les femmes, les enfants, les hommes, sur le rivage. Et ils prient pour lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle là. Il n'y a pas de guérison. Dieu n'enlève même pas le chemin étroit et difficile. Mais quel amour. Alléluia. Et je crois que si l'apôtre Paul a pu continuer, il y a d'autres exemples, on n'a pas le temps de tous les citer, c'est parce qu'il a vu l'amour de Dieu manifesté au travers de ses frères et sœurs. Et cela a été un puissant encouragement pour lui. Alléluia. Amen. Alors mon premier point, c'est de dire tout d'abord l'origine de cet amour. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'origine de cet amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, 8, l'Écriture nous dit que Dieu est amour. L'amour dont nous parlons, ce n'est pas un plaisir égoïste, ce n'est pas de la sensualité. C'est l'amour qui vient de Dieu et il possède quelques caractéristiques. Je vous le dis souvent, lorsqu'on parle d'amour, il y a un texte, le résumé de toute la Bible, Jean 3, 16, qui définit ce que c'est que l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et aimer, c'est donner. Dieu est amour et il a donné, il a partagé son Fils afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et aimer, c'est donner ce qu'il y a de meilleur dans le but de sauver, dans le but de donner la vie. Alléluia. Toi qui peut-être es à la mort dans l'âme, toi qui peut-être es et dans cette tristesse intérieure, Dieu t'aime, alléluia, Et parce que Dieu t'aime, son amour se met en action envers toi pour te donner la vie. Alléluia. Pour que tu aies cette relation, pour que tu aies cette communion. Il est celui qui pardonne, il est celui qui relève, il est celui qui guérit, il est celui qui restaure. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dévalorisés devant lui. Nous ne manquons pas de considération de la part du Seigneur, mais il désire que nous puissions le connaître, cet amour merveilleux qui est dans son cœur. Je crois que vraiment le Saint-Esprit nous a parlé. Dans un don spirituel, il nous a été dit même qu'avant que nos jours n'existent sur cette terre, Dieu savait qu'on allait venir. Alléluia. Mais ça dépasse notre pensée. Moi, si ça ne vous dépasse pas, moi ça me dépasse. Que Dieu connaisse la vie de tous les êtres humains qui allaient venir sur cette terre et tout ce qui reste à venir avant qu'ils n'existent. Et Dieu, dans son amour, avait prévu un plan, alléluia, pour sauver chacun d'entre eux. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et ce matin, nous voulons le comprendre, mais Dieu est à l'origine de l'amour. Dieu est celui qui manifeste son amour et Dieu est celui qui le communique. Le Père à l'origine de cet amour, le Fils Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui révèle pleinement l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'aime tellement qu'il a donné sa vie, afin que tu ne périsses pas, que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Il t'aime, alors il te donne la vie. Alléluia. C'est le but de Dieu. Alléluia. C'est le but de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit est celui qui visite et qui communique cet amour. Alléluia. Et nous le comprenons. Et ce matin, je voudrais que personne ne puisse se sentir comme de trop. Comme disant, mais moi je suis un passager là. Je viens peut-être pour là ou les premières fois, j'en sais rien. Et je ne fais pas partie de cette église. Et est-ce que le Seigneur pense à moi ? Mais je voudrais te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si c'est la première fois que tu entends l'évangile. Il n'y a pas de stage à passer pour connaître l'amour de Dieu. Il s'agit simplement de le rencontrer. Alléluia. En préparant ces moments, je me suis souvenu de... Je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu, considérant l'amour du Seigneur. Je me suis souvenu de cette femme à la perte de sang. Vous vous souvenez ? Alors, les vieux chrétiens, là, qu'on est, on connaît ce texte. Vous vous souvenez de ça ? Il y a un papa dont la petite fille est en train de mourir. C'est le chef de la synagogue de Capernaum. Il dit à Jésus, viens, impose-lui les mains, elle sera guérie. Il a la foi, lui, hein ? Amen. Et pendant qu'il est en route, il y a tout le village qui se rassemble. Il y a une foule, on est en Orient, là. Alors tout le monde est au courant de tout. Et il y a une femme qui est là, et qui est atteinte d'une perte de sang. Dans sa religion, elle est impure. Elle ne devrait pas être là parce que tout ce qu'elle touche, elle le rend impur, vous voyez. Mais cependant, il y a une voix. Qui parle à son cœur dans l'évangile selon Marc, au chapitre 5 et au verset 25, cela est dit. Mais si je touche au verset 28, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est pour ça que je dis, toi là, que peut-être tu essayes de faire l'anonyme, mais tu as besoin du Seigneur. Tu n'es pas mis de côté. Alléluia. Tu fais pas partie peut-être des listes et des sujets de prière. Peut-être que personne ne te connaît ici, mais Jésus voit ta détresse. Alléluia. En anonyme, en toute simplicité, mais dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et quand on voit la suite, on découvre, mais Jésus m'est rempli d'amour pour cette femme. Il ne veut pas qu'elle soit simplement une consommatrice. Allez, tiens, prends ta guérison et va-t'en. Non, il la cherche. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre lui dit, mais enfin, tout le monde te touche. Ah non, il y a une force qui est sortie de moi. Et la femme, elle se voit découverte, elle est toute tremblante. Voilà ce que j'ai fait, j'aurais pas dû. Mais Jésus ne la traite pas. Oh, mauvaise femme, qu'est-ce que tu as fait ? Non, pas du tout. Et il lui parle avec amour, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Je crois qu'elle a été guérie à tous les niveaux. Elle a été guérie physiquement, mais elle a été guérie spirituellement. Alléluia. Elle est repartie. Mais mon Dieu est mon sauveur. Alléluia. Il est celui qui ne s'arrête pas à mon impureté, à mon péché, à mes faiblesses. Mais il est celui qui m'aime, qui me pardonne, qui me purifie, qui me rétablit. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça l'amour. Amen. L'amour qui fait que eh bien, il n'est pas indifférent. Alléluia. Alors cet amour, il a besoin de grandir. C'est comme un végétal, l'amour. L'amour, ça a besoin de grandir et cet amour, voilà, c'est mon deuxième point. Lorsque Paul parle aux Corinthiens et qu'il écrit tout cela sur l'amour, vous avez remarqué qu'il dit quand même des choses un peu percutantes. Au début, il leur dit, si j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si j'aurai les dons de prophétie, voilà, une action, une onction sur ma vie telle que, voilà, à chaque culte, j'apporte une prophétie. Mais si t'as pas l'amour, Paul dit, mais tout ça, ça sert à rien. Et là, eh bien, en réalité, il vise directement ces chrétiens de Corinthe, qui étaient des chrétiens authentiques. Chrétiens authentiques, mais au niveau de leur santé spirituelle, il y avait un truc qui n'allait pas. Oh, ils pouvaient avoir une foi vive. Ils croyaient que Jésus était capable de faire des miracles. Ils croyaient dans l'imposition des mains, dans l'onction d'huile. Oui, gloire à Dieu. Ils croyaient dans l'espérance que Dieu leur avait donnée en Jésus-Christ, quoique Paul a dû rétablir certaines choses. 1 Corinthiens 15, vous le lirez si vous le désirez. Mais quant à l'amour, en fait, ce qui nourrissait un petit peu la vie de l'Église à Corinthe, c'était un esprit de compétition. On voulait savoir qui était le meilleur. Moi, j'étais baptisé par Jean Verdier. Moi, j'étais baptisé par le pasteur, je ne sais pas si certains ont connu le frère, comment il s'appelle, Charlie Legrand. D'autres, Albert Richardson. Voilà, je parle aux anciens, hein, voilà. Et, etc., etc. Et il y avait une espèce d'esprit de compétition qui faisait que les chrétiens... eh bien, était rempli de cette rivalité, même de jalousie. Ils mettaient en avant leurs coutumes, ils mettaient en avant eh bien, leurs particularités. Et Paul va leur dire, mais n'êtes-vous pas charnels, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Est-ce que vous n'êtes pas charnels, par hasard? Est-ce que, puisque vous avez... Ces envies les uns à l'égard des autres, puisque vous êtes eh bien, dans ces disputes, eh bien, de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et est-ce que vous ne marchez pas selon l'homme et quelqu'un peut-être dira, mais enfin, pasteur, alors, quand quelqu'un dévie, quand quelqu'un ne marche pas très bien, on n'a pas le droit de le reprendre? Oui, bien sûr. Parce que c'est ce qui se passait dans l'Église. Il y avait des choses où certains faisaient des grands écarts par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la doctrine même. Voyez. Mais tout dépend comment tu reprends. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, dit ceci, c'est un vieux pasteur qui parle à un jeune pasteur. Il dit ceci, « Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Je reviens, l'amour... c'est donner ce qui est le meilleur, mais c'est donner la vie, c'est pas tuer quelqu'un. Et vous savez que parfois, la foi de certains, jeunes même baptisés, jeunes convertis, a été assassinée parce que, oh, on avait raison de leur dire, hein, parce que c'était pas comme ça, mais alors la façon dont c'est tombé, ça fait énormément de dégâts. Hein. Je veux le dire, hein, j'ai pu faire aussi ce genre de... On s'est cru très spirituel. On s'est cru très droit dans nos bottes. Pour dire, c'est comme ça, c'est la vérité. Ouais, mais tu peux dire la vérité sans amour, mais tu fais un dégât pas possible. Et l'apôtre Paul dira, reprends, censure. Reprends, c'est dire, dis-lui que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Censure, ça veut dire, dis-lui alors ça, c'est interdit, pas possible. Voilà. Encourage, quand il faut encourager, encourage, dis, c'est bien, continue. Mais avec toute douceur. Et en disant pourquoi il faut faire comme ça, surtout quand tu interdis, tu dis que c'est interdit, surtout quand tu reprends. Parce que ce que tu peux dire, si tu le dis sans amour, sans affection, mais c'est capable eh bien, de le briser complètement. Je pense que Paul a fait cette expérience avec un certain jeune homme qui s'appelait Marc, qui a commencé le ministère. Au début, il n'a pas tenu, c'était trop dur pour lui. Voilà, il n'a pas tenu, c'est arrivé. Il n'a pas tenu. Et il est rentré chez lui. Et quand Barnabas veut le reprendre, le remettre en selle, il dit, non, lui, je ne le reprendrai jamais. Voilà, c'est un peu excessif. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Un peu dur. C'est l'apôtre Paul. Hein? Bon, il fallait le suivre. Hein. Je ne sais pas si on aurait réussi, hein, tous les deux, parce que tout se faisait à pied et c'était chaud quand même. Hein. Voilà, il fallait accepter. Aujourd'hui, on dit, ah, un serviteur de Dieu, c'est formidable, il y a des PowerPoint, il a le costume, il a l'estrade, etc. Si tu confessais le nom de Jésus et si tu prêchais l'évangile, tu pouvais finir dans une prison à l'époque de Paul. Hein. Tu pouvais être lapidé. Il fallait avoir quand même les nerfs solidement accrochés. Et puis une foi, une patience à toute épreuve. Alléluia. Eh ben, au moment, ben, Marc, c'était trop compliqué pour lui. Eh ben, et Barnabas, frère d'exhortation, eh bien, l'a remis en selle. Écoute, Paul, tu te souviens quand tu es venu eh bien, de Damas, personne ne croyait que tu t'étais donné au Seigneur. Il n'y a que moi qui l'a cru. Et regarde ce que tu es devenu. Lui, il a eu une chute. Et je vais le reprendre. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nommera Marc en disant, il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Amen. Amen. Heureusement que Barnabas a arrondi les angles eh bien, de l'apôtre, du message de l'apôtre Paul. Alléluia. Et je crois que, parce que je l'ai noté ici, hein, alors attendez, je l'ai noté, mais j'ai tellement de notes. Mon petit garçon m'a dit ce matin, « Papa, c'est quoi tous ces papiers jaunes que tu mets sur tes messages ?» Je lui dis, « C'est des post-it. » Il dit, « Pourquoi c'est des... Parce que j'ai dépensé, alors je les mets, je les mets. » Vous voyez ? Alors après, il faut que je... 1 Jean 5, 3 nous dit, « L'amour de Dieu consiste à garder ses... » commandement. Ce n'est pas que sentimental. Bien sûr, il y a des sentiments, on est attaché. Mais c'est aussi l'amour de la vérité. Oui, mais je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu ne vas pas perdre l'amour de la vérité en aimant les âmes. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a une femme qui vit dans le péché, qui vit avec un homme qui n'est pas son mari, et avant de rencontrer cet homme, elle a divorcé 5 fois. C'est dans la Bible, hein. C'est dans ma Bible. Hein. On l'appelle la Samaritaine. Jean chapitre 4. Et quand Jésus lui parle pour lui demander de l'eau, tu es qui toi? Tu es un homme? T'es juif? Moi je suis Samaritaine. Tu ne dois pas me parler. Ah, si tu savais qui je suis. Je fais simple. Hein. Voilà. Et le Seigneur lui parla avec amour. Ben, si tu savais qui je suis, moi je te donnerais une eau telle que ça jaillira de ton cœur. Tu aurais plus soif et tu ne serais plus obligé de venir là. Oh, Seigneur, donne-moi. Donne-moi cette eau, ben, va appeler ton mari. Voilà. Et elle a dit, ben, j'ai pas de mari. Mais vous vous souvenez le contexte que je vous ai dit? 5 fois divorcé, le gars avec qui elle est, c'est pas son mari. Dit, et Jésus aurait pu dire, mais femme pécheresse, je connais ton cœur, tu me caches des choses. Il aurait pu le dire, oui ou non? Oui, il aurait attendre. Mais Jésus lui dit, mais quel humour en même temps le Seigneur. Tu as bien répondu, c'est vrai, parce que tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es là, ben, ce n'est pas ton mari. Donc c'est vrai, tu as bien répondu, ce n'est pas ton mari. Seigneur, je vois que tu es prophète. Son cœur et elle découvre, est révélé et elle découvre quelqu'un qu'il aime. Quelqu'un qu'il aime. Elle qui cherchait le grand amour, elle découvre au bord d'un puits l'amour du Fils de Dieu. Alléluia. Fatiguée. Qui annonce déjà Golgotha, la croix, et qui s'annonce comme étant le sauveur du monde. Alléluia. Et la vie de cette femme va être complètement changée. Je suis convaincu qu'elle va mettre sa vie en ordre. Elle va remettre de l'ordre dans sa vie. Mais cette rencontre avec le Seigneur, quel tact ! Alléluia ! Quel tact avec les âmes ! Son but, le but, c'est pas simplement de dire la vérité. Bien sûr, la vérité, elle sauve. Alléluia ! Mais c'est de sauver cette personne. Alléluia, c'est de lui faire comprendre. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Voilà. Donc, on a besoin de ça et de dire, mais Seigneur, je ne sais pas pour vous, Seigneur, j'ai besoin d'aimer comme tu aimes. Oui ou non? D'aimer, non pas comme un excusez-moi du terme, hein, un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais d'aimer avec attention, avec intelligence. Peut-être ce collègue de travail, peut-être ce membre de ta famille, peut-être cet ado. Moi, j'ai des ados. Je suis content qu'ils soient partis en grand. Je vous assure, ça m'a reposé. Voilà. Peut-être d'autres aussi. Je ne sais pas. Non, ça va. Mais il y a des gentils ados. Mais il y a des ados. Et des fois, c'est... on les assure. Bon, non. Ouais. Mais on les aime très fort. Mais on comprend, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais mon but, c'est qu'il soit sauvé, c'est qu'elle soit sauvée. Seigneur, l'amour est patient. Alléluia. Amen. Il est plein de bonté. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors, je vais avancer. Voilà, j'avance. Et pour vous dire que, eh bien, cet amour, eh bien, il se met forcément, eh bien, en action. Il se met forcément en action. C'est le troisième point. Je regarde deux, trois choses pour voir si je n'ai pas, eh bien, oublié. Voilà, non, mais c'est bon. Et Jésus, donc, a gagné cette femme samaritaine. C'est ce qu'on a vu ensemble. L'action de cet amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les verbes d'action qui sont associés à l'amour. L'amour agit. L'amour agit. La foi me permet d'être sauvé. Oui, je suis sauvé par la foi. L'espérance, oui, je sais ce qui va arriver. Seigneur, merci pour tes promesses. C'est oui et amen. Mais l'amour me met en demeure d'agir. C'est la façon dont j'agis, alléluia, dont je vis la vie avec toi, Seigneur. Et je vous ai dit tout à l'heure, cet amour, il n'est pas charnel, mais il est spirituel, alléluia. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin, eh bien, d'être remplis du Saint-Esprit et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Quels sont les sujets dans lesquels tu voudrais que je puisse agir, je puisse intervenir? Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3, il nous est parlé du travail de notre amour. On est dans une époque qui est égocentrique, qui est centrée sur soi. On recherche sa valorisation personnelle. L'évangile, c'est pas cela. Aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes toi, mais aime-le comme tu l'aimes, comme toi tu t'aimes. Tu sais de quel amour je t'aime. Oui, mais alors tu vas aimer, eh bien, ton prochain de ce même amour-là. Et c'est le Seigneur qui le dira donc dans Jean au chapitre 13. Eh bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il y a dans vos sujets personnels de prière des membres de cette église pour lesquels vous priez? Je vous laisse répondre. Est-ce qu'il y a sur votre cœur un jeune, un ado, un enfant, un grand-père, une grand-mère, un étudiant, une famille pour laquelle vous priez? Donc, je ressens qu'ils ont besoin de la prière. Je ressens qu'ils passent par une épreuve. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Voyez, et ça, c'est quelque chose qui indique également notre bonne santé spirituelle. Voyez, et c'est pour ça que c'est bien qu'on se voit, parce qu'au moins on prend des nouvelles les uns les autres, etc. Alors, je vais vous donner, eh bien, quelques cas dans la Bible de personnes, eh bien, qui ont manifesté cet amour. Alors, parce que et la liste est loin, très 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 loin d'être exhaustive. Mais par exemple, vous avez un certain. Est-ce que je voulais marquer? Vous les avez, hein? Un certain Onésiphore, dans 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 16. Normalement, tu dois avoir toutes les références, John. 2 Timothée, au chapitre 1er et chapitre 1er, verset 16. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, n'a pas eu honte de mes chaînes. Vas-y, le verset 17. Et au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. L'amour qui cherche. Onésiphore venait d'Éphèse, c'est en Turquie. Il s'est rendu à Rome, c'est en Italie, simplement pour voir Paul en prison. Je ne sais pas s'il avait quelque chose à lui apporter, peut-être un vêtement, un revenu supplémentaire, mais c'était simplement pour le voir en prison. Je ne sais pas s'il a eu le temps de le voir beaucoup, mais je suis mais en tout cas, ce que je sais, d'après ce que l'on a, cette épître, la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est la dernière de sa vie. À la fin de cette épître, il écrit clairement, mais je sais que ça y est, mon heure arrive. Hein. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Voilà. Il sait qu'il s'en va. Et là, il y a un homme, un chrétien, alors que c'est dangereux. Il va le visiter. Alléluia. Ça, c'est un amour pratique, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Un amour qui cherche. Un autre amour, Timothée, l'amour qui partage. Philippiens chapitre 2 et le verset 22. Est-ce que tu l'as? Vous allez la voir, voilà. Vous savez qu'il a été mis, en parlant de Timothée, à l'épreuve, en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père, verset 23, et j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et 24, et j'essaie, alors 25, vas-y, voilà, et j'estime, voilà, bon, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, de Timothée, eh bien, ce garçon qui a passé du temps, qui a été mis à part, un amour qui partage les souffrances. Parfois, il y a certaines situations, on n'aime pas les entendre. On a l'impression qu'ils tournent en rond, voilà, ou elles tournent en rond. Ben, il est comme en prison. L'apôtre Paul, à ce moment-là, il a souvent été en prison. Hein. Dire, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu, me réjouissez-vous avec moi, etc. Mais enfin, il fallait y rester en prison. Hein. Et quand on était jeune homme, hein, on aurait pu dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire ma vie, ma famille. Seigneur, tu veux me bénir, gloire, voilà, donne-moi une gentille épouse et on aura des enfants. Et non, il va avec Paul et il se retrouve en prison. Et il passe du temps. Ça, c'est un amour pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Parfois, moi, ça m'est arrivé. Hein. Il y a un frère qui n'était pas au courant de ce qui m'est arrivé. Je tournais en rond. Toujours une même pensée qui revient. Et un frère m'a téléphoné. J'ai eu à cœur de te téléphoner. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble au téléphone? Je dis oui. Il a prié pour moi au téléphone. Bon, le Seigneur m'a béni. Ça a été un déblocage. J'ai dit, mais merci pour ce coup de téléphone, Seigneur. J'ai ma relation avec toi. Mais des fois, on peut être tellement... Mais... Eh bien, une prière, alléluia. Un autre frère, je vous ai parlé sur la plage là tout à l'heure, mais regardez, dans Actes 28 et le verset 15, Actes 28 et le verset 15, ça c'est les chrétiens de Rome, c'est l'amour qui encourage. En les voyant, eh bien, l'apôtre Paul reprit courage. On aurait pu se dire, mais c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, il était sensible à la communion fraternelle. Qu'un frère le salue, que des frères fassent le déplacement vers lui alors qu'il allait être jugé, alors qu'il était dans une situation compliquée. Humainement parlant, ces chrétiens, ils ne pouvaient pas changer le sort de l'apôtre Paul. Il allait passer au tribunal. Voilà, humainement parlant, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Je vous ai dit tout à l'heure, l'amour communique la vie. Tu n'es pas tout seul. On est avec toi. Et le Seigneur est avec toi. On se le dit, on se le répète. Vous accrochez un verset, vous avez sur votre smartphone, voilà votre verset préféré, vous le repassez en boucle, etc. Mais quand c'est quelqu'un qui vous parle, bah c'est bien de l'entendre aussi. Alléluia, amen. Et de dire, on est avec toi. Il y a quelque temps en arrière, nous étions à Cluse, et on avait un frère entrepreneur. Il avait une belle entreprise, mais il était pris par le boulot, c'était terrible. Et un jour, je ne l'ai pas vu au culte, je n'ai pas vu à 2-3 réunions de suite. Et alors, je n'ai pas essayé de faire le policier du tout, hein, mais pour prendre des nouvelles. Et j'ai dit, et je ne l'ai pas eu, je suis tombé sur son téléphone et sur sa messagerie. Et je lui ai dit, écoute, voilà, bah, c'était pour prendre des nouvelles. On prie pour toi, nous prions pour toi, pour que le Seigneur te bénisse. Et le matin, il m'a rappelé, cette fois-ci, il m'a rappelé. Et il m'a dit, ton message m'a fait du bien. Parce que le matin, je disais, Seigneur, j'ai tellement de travail. C'est une période, j'arrive même plus à prendre le temps pour prier, Seigneur. Je dis, Seigneur, bénis cette journée, il y a un peu la Bible. C'est tout, Seigneur. Mais je voudrais que, si seulement il y avait des gens qui prient pour moi. Il reçoit ce message. On prie pour toi. Alléluia ! Ça ne change pas le boulot, ça ne change pas le quotidien. Mais ça change quelque chose dans la communion fraternelle. Alléluia, tu n'es pas seul. Et c'est ça l'amour. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Alors je termine. Mais hier, je vous assure qu'en préparant ce message, je vous parle avec mon cœur hein, ce matin. Je disais, Seigneur, bon, l'amour, ça va être facile à en parler. Mais tu m'étonnes. C'est compliqué. Galates chapitre 5, verset 6. Ce qui rend agissant la foi, c'est l'amour. La foi agissante par l'amour. Alléluia. Amen. Alors, nous allons terminer. Et je voudrais juste lire, ou plutôt relire ce dernier texte, c'est mon quatrième point. Un amour permanent, la permanence de l'amour, l'origine de l'amour, la croissance de l'amour, l'action de l'amour et la permanence de l'amour. Nous l'avons lu tout à l'heure, l'amour ne périt jamais. C'est un attribut de Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est encourageant de savoir que l'amour du Seigneur ne change pas. Amen. Il est toujours le même. À lui soit la gloire. Oui, mais, il est écrit dans Matthieu, au chapitre 24 et au verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Jésus dira même à une église, l'église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, connaissez, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ou l'amour qui... Donc, l'amour ne périt jamais, mais parfois, on peut perdre l'amour. Et il me semble que dans les temps dans lesquels nous sommes, si vous suivez un petit peu l'actualité, ce n'est pas trop l'amour qui est en vogue. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? C'est plutôt la haine. C'est annoncé, parce que l'iniquité s'accroîtra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et en préparant ces moments, je me suis souvenu de ce texte dans Matthieu 5 et au verset 44, dans lequel il nous est parlé d'aimer nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et mes frères et sœurs, je ne veux pas faire le prophète, là, ce matin. Mais un chrétien n'est l'ennemi de personne. Moi, je n'ai personne dans le collimateur. Voilà, vous êtes mes frères, mes sœurs, mais dans l'église et à l'extérieur de l'église, un peu Guillaume. Non, mais... Je lui ai fait la même blague hier. Voilà, les jeunes. Voilà, non, c'est une plaisanterie. Mais un chrétien peut avoir des ennemis, des gens qui ne nous aiment pas. Je ne veux pas faire le prophète, mais il me semble qu'on va vers des temps où ce n'est pas l'amour qui va régner. Hein. Plaise au Seigneur que l'amour règne toujours au milieu de nous. Alléluia. Qu'on s'aime, qu'on ne soit qu'un cœur, qu'une âme. Acte 4, 12. Mais que... Dans le monde, on le sait. Et mes frères et sœurs, quelle est la réponse ? On va répondre comment ? On a vu avec effroi, moi ça m'a fait quelque chose. Je vous parle avec mon cœur de voir dans cette actualité, de voir que sur certaines maisons, parce que là il y a des juifs, on a mis une étoile de David. Je me suis dit, punaise, j'aurais jamais cru voir ça. Peut-être qu'un jour l'Église aussi sera la proie de la haine. C'est de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on cherche ? C'est de la méchanceté, c'est de la haine. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Souvenez de Saul de Tarse qui respirait la menace et le meurtre. Il n'a pas rencontré la haine des chrétiens, il a rencontré l'amour de Barnabas qui a fait de lui l'apôtre Paul. Alléluia, amen. Et peut-être qu'on a besoin, vous savez, l'intelligence, c'est de se projeter dans le futur et de se préparer à ce qui va venir. Seigneur, si je rencontre quelqu'un qui n'aime pas ta parole ou qui ne m'aime pas au bureau ou je ne sais quoi parce que je suis un chrétien, parce que je déclare ma foi, Seigneur, donne-moi de l'aimer. Vous pouvez prier comme ça, hein ? Seigneur, que je puisse l'aimer malgré tout, alléluia. Humainement parlant, ça c'est inatteignable, hein ? Quelqu'un qui fait du mal, je lis des rapports de portes ouvertes sur des choses horribles qui se font eh bien, sur des chrétiens dans des familles où le mari a été assassiné, la femme, je ne parle pas de toutes sortes de choses, etc. Et dans le cœur de ses bien-aimés, dit « Mais je pardonne à mes ennemis. » Mais dit « Seigneur, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. » Vous savez que l'Église, en 4 siècles, a rempli l'Empire romain qui, à plus de la moitié, était devenu chrétien sans une arme, sans un acte de violence, uniquement en témoignant de sa foi et de leur amour qu'ils avaient pour Jésus et pour tous les hommes. Alléluia, amen. Et je prie pour que nous aussi, eh bien, on ait cette bonne santé spirituelle en disant, Seigneur, il faut que l'amour eh bien, il soit permanent. Alléluia. Un jour, on sera dans le ciel. J'ai noté ça, Jérémie 31, verset 3, je crois que c'est ça. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Périt jamais, peut ressusciter peut-être dans un cœur ce soir. Alléluia. Ce matin, l'amour peut-être peut ressusciter dans ta vie, peut-être dans le foyer, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari, peut-être pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour le Seigneur lui-même. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit veut ranimer tout cela. Amen. Alléluia. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Voilà qu'on demande au Seigneur de nous renouveler, de nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, c'est vrai, nous voulons veiller sur notre vie spirituelle, sur ce qui nous anime, sur les motivations profondes de nos cœurs. Seigneur, l'apôtre Paul avait décelé que l'attitude des Corinthiens était charnelle, parce que, Seigneur, ils ne cherchaient pas à servir, mais ils servaient à dominer les uns sur les autres. Et ils se servaient des dons que tu leur avais donnés, Seigneur, pour un profit personnel. Et Seigneur, il leur a dit, mais vous êtes comme un airain qui sonne, comme une cymbale qui retentit, c'est vide. Seigneur, nous voulons avoir des motifs purs dans nos cœurs, mais remplis de ton amour. Alléluia. Et Seigneur, je te prie afin que dans cette matinée, Seigneur, nos cœurs étant comme à nu devant toi, Seigneur, nous puissions te dire, mais remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, visite-nous afin que nous puissions aimer, Seigneur, comme tu aimes. Tu reviens bientôt. Il y a des hommes et des femmes à sauver, des Samaritaines, Seigneur, des femmes à la perte de sang, Seigneur, des gens, Seigneur, des soldats de Tarse qui respirent la menace et le meurtre. Et tu les aimes alors qu'ils ne sont pas aimables. Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur, de les aimer, Seigneur, comme, Seigneur, toi tu les aimes. Et puis, Seigneur, je te prie pour celui, pour celle qui, ce matin, Seigneur, mon Dieu, souffre d'un manque d'amour, qui peut-être, Seigneur, dans sa jeunesse, son enfance, peut-être dans une situation actuelle, Seigneur, vit comme un désert, comme une solitude. Mais je te prie afin que ton esprit, Seigneur, comme un baume, passe sur ce cœur et te dise, je t'aime d'un amour éternel. Tu l'as entendu ce matin. Avant que le monde n'existe, il t'aimait déjà parce qu'il voulait faire de toi son enfant. Alléluia. Alors, tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, je voudrais qu'on laisse le Saint-Esprit agir quelques secondes, quelques instants, en disant, Seigneur Jésus, je veux que ma vie, eh bien, possède la foi, oui, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour. Merci Seigneur.